France Musique. France Musique, guitare, Sébastien Linares.
Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les studios de guitare et ravi de vous retrouver chaque semaine à l'antenne de France Musique. Aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir à nos micros un des guitaristes français les plus demandés sur les scènes classiques du monde entier. Vous le connaissez bien, il est un habitué de cette antenne, c'est Thibaut Garcia. Nous allons discuter un peu avec lui, réécouter des extraits de ses enregistrements. Et il va nous présenter un grand projet qu'il prépare en collaboration avec la Philharmonie de Paris. Je vous en dis pas plus, il vous expliquera tout ça en deuxième partie d'émission. Dans Guitare des légendes à 12h50, je vous raconte la valse opus 8 numéro 4 d'Augustine Barrios-Mangoré. Et j'ai récemment pris quelques jours de vacances et en rangeant mes étagères et mon disque dur, j'ai redécouvert un artiste de génie, quelqu'un qui m'avait à l'époque tellement impressionné que je m'étais dit « bon, on verra plus tard, j'approfondirai quand le moment sera venu ». J'ai été à ce moment-là plongé dans le monde de la comédie musicale et particulièrement fasciné par Stephen Sondheim. Et dans ces comédies, certains numéros deviennent des standards et sont donc le terrain créatif des musiciens de jazz. Et aujourd'hui, ce musicien, c'est Ted Green.
Thank you.
Un air issu de la comédie musicale Little Night Music de Stephen Sondheim, joué par Ted Green. Une personnalité vraiment à part, qui possède déjà une signature sonore très particulière et un jeu qui est d'une sophistication incroyable. Les accords, les voicings, la sonorité, la technique, la sensibilité, tout est extraordinaire. Il ne ressemble à aucun autre guitariste, à aucun autre jazzman, et possède un monde harmonique qui est bien à lui, toujours en mouvement. Tout semble possible. Et aux possibilités de substitution, de modulation, s'ajoute une science du contrepoint qu'il a développée en étudiant la musique baroque. Écoutez-le revisiter le traditionnel Danny Boy.
Thank you.
Ted Green revisite le thème d'Danny Boy et pour moi c'est à couper le souffle. Déjà, son utilisation des harmoniques, qu'il emploie en cascade ou mêlée à ses arpèges, ça augmente considérablement la tessiture de la guitare qui s'ouvre au monde des suraigus. Ensuite, les accords initialement très simples de cet air traditionnel sont largement développés dans cette version, comme un labyrinthe de couleurs, d'inventions, d'idées, d'inspirations. On a vraiment l'impression que ça coule et que ça se renouvelle en permanence. C'est un guitariste qui explose tous les cadres. Il a ingurgité les langages du jazz, des Beatles, des impressionnistes pour développer son univers à part entière. Et ce qu'il fait dans La fille aux cheveux de lin de Debussy le place tout en haut. Le son de l'enregistrement qu'on va écouter est assez endommagé, mais ça vaut le coup de passer outre et de profiter de cette musique. On n'a qu'à imaginer que c'est l'ampli guitare qui crépite un peu. Thank you. Avez-vous entendu ce petit glissé extraterrien qui fait ressortir des harmoniques? Attendez, on vous le remet. Ted Green n'a pas laissé beaucoup d'enregistrements, il a par contre beaucoup enseigné, écrit, conçu des méthodes pédagogiques, notamment une qui explique son approche sur les accords, qui est d'une richesse folle. En fait, il possède la liberté et la sophistication harmonique d'un Herbie Hancock ou d'un Jacob Collier, mais dans un système pensé avec les spécificités de la guitare. Et surtout, il fait ça sur le moment, avec spontanéité. Alors je sais que vous m'entendez souvent dire ça, mais c'est vraiment ce qui est exceptionnel. On peut toujours préparer quelque chose, de soigner, de bien penser, on peut toujours. Mais improviser avec une approche aussi poussée, avec un vocabulaire aussi riche, ça, c'est prodigieux. Dans cette Over the Rainbow, Ted Green est en duo avec le guitariste John Pizzano et il réinvente l'art d'accompagner une mélodie et de dialoguer avec un soliste. Tenez encore un exemple. Thank you. The Touch of Your Lips, un extrait du disque Among Friends dans lequel le guitariste John Pizzano invite des amis à jouer en duo. On vient d'en écouter deux avec Ted Green, en voici un autre qui vaut le détour, cette fois-ci avec Joe Pass. Thank you. Le thème « Take the A-Train » mis en mouvement par un duo d'amis, Joe Pass et John Pizzano. Allez, c'est l'heure maintenant d'accueillir notre invité Thibaut Garcia.
France Musique, guitare, guitare, Sébastien Linares.
Thibaut Garcia, bonjour.
Bonjour.
On est vraiment ravis de vous avoir à ce micro. J'avais envie, pour commencer cet entretien, de vous poser une question par rapport à vos disques. Vous avez sorti l'an dernier un disque sur Barrios Mangoré, très joli disque. Est-ce que vous faites partie de la catégorie d'interprètes qui réécoutent ces disques ?
Il y a des disques que j'arrive à réécouter de ceux que j'ai enregistrés et d'autres que j'ai plus envie de réécouter. Et c'est assez drôle. Et alors, pour vous dire, pour être tout à fait honnête avec ça, le Barrios, j'aime l'écouter.
Okay.
Et le disque Aranjuez, j'aime beaucoup l'écouter aussi. Okay. Et je pense que c'est les deux que j'arrive à réécouter. Les autres, je les écoute pas.
Vous immergez dans la musique du compositeur ou vous êtes plutôt du genre à avoir mille trucs en même temps? J'avais l'impression que sur le disque Barrios, c'était vraiment très...
Barrios, c'était une immersion totale. Hein. C'est-à-dire sur le point de vue de ce que je pouvais lire en amont, sur sa vie, sur ses œuvres, le fait que je jouais beaucoup sa musique, que j'écoutais ses enregistrements. Ça a été particulièrement une immersion pour penser la musique et penser le mouvement musical différemment.
Vous avez voyagé aussi sur ces traces ?
J'ai voyagé sur ces traces après l'album. Et j'ai eu la chance il y a quelques mois justement d'aller au Paraguay, d'aller en Uruguay, au Mexique sur ces traces pour faire un reportage pour la télé américaine qui sera disponible d'ailleurs en avril sur PBS.
Alors vous êtes un des interprètes en guitare dont la notoriété dépasse largement le monde de la guitare mais aussi le monde de la guitare classique. On vous a vu en duo avec Barbara Pravi, on vous a vu en duo avec Mika. Vous avez participé au dernier disque de Pierre Génisson qui s'appelle Songbook. Est-ce que c'est une nécessité pour vous de mélanger un petit peu les styles ?
En fait, c'est des rencontres. C'est-à-dire que parfois, on nous appelle pour participer à un projet ou un album. Parfois, on rencontre quelqu'un dans un cadre complètement inédit et on se dit « Tiens, si on faisait de la musique ensemble ?» Et moi, je ne ferme aucune porte. C'est-à-dire que si l'occasion se présente, s'il y a quelque chose de spontané, quelque chose de vrai qui se passe entre deux artistes, ça va fonctionner. Par contre, ce n'est pas une nécessité au sens où je vais pas aller chercher ça absolument. Pour moi, il faut que tout soit naturel.
Est-ce que dans ces cadres-là, est-ce que votre guitare reste finalement classique ou est-ce qu'elle s'imprègne de, je ne sais pas si vous travaillez avec Mika, est-ce qu'elle s'imprègne de l'esthétique de la variété ou de la world ou du jazz ou comment ça se passe ?
Il y a un peu des deux. C'est-à-dire que forcément, à un moment donné, la musique classique est une musique écrite. Donc soit je joue du répertoire en mélangeant avec un chanteur plus pop, soit je commence à improviser ou à créer des riffs, des accompagnements. Et là, on va un peu plus vers le monde de la pop. Mais ce qui m'intéresse, c'est d'ajouter des harmonies peut-être un petit peu savantes ou de proposer des chants, des contre-chants avec des théories qu'on connaît.
Un dialogue.
Exactement.
Un dialogue. Votre carrière, qui est florissante et aussi la ligne artistique que vous avez font que vous êtes un modèle quand même. Vous êtes devenu une sorte de modèle pour pas mal d'étudiants, pour pas mal d'élèves et d'apprentis guitaristes. Et vous avez cette fibre fédératrice qui fait qu'on peut mener des projets pédagogiques ambitieux. Vous en êtes où par rapport à ça? Qu'est-ce que vous menez comme projet pédagogique?
Alors, ça, c'est vrai que c'est une ligne directrice pour moi dans ma carrière qui est très importante, le fait de fédérer, de créer des choses avec la jeunesse, de transmettre, de partager. Et là, en l'occurrence, il va y avoir un magnifique projet à la Philharmonie de Paris, la Guitare Mania, parce que j'ai appelé ça la Guitare Mania, parce que bon, on est tous un petit peu des geeks, des passionnés. On est des maniaques. Il y a Star Mania et il y a la Guitare Mania. C'est un événement qui aura lieu sur 3 jours à la Philharmonie. Et en parlant de transmission, de partage avec la jeunesse, le 5 avril, il y aura un événement où je fais un récital, mais en première partie, j'ai voulu qu'on crée un orchestre de guitare, donc il y aura 70 musiciens de 7 conservatoires différents. On a demandé à Léo Brouwer de nous composer une pièce spécialement pour l'occasion.
Qui sera créée à ce moment-là?
Ce sera une création pour orchestre de guitare qui est super, très exigeante, mais qui est vraiment super. Donc ça fait partie des projets qui m'intéressent. Et puis en parallèle de ça, dans ce projet Guitare Mania, le 2 avril, il y aura un gros événement à la Philharmonie de Paris, un peu exceptionnel, autour des concertos pour guitare. Je pense que c'est la première fois à la Philharmonie de Paris, dans la salle Boulez, qu'on aura une soirée autour de 3 concertos pour guitare. Avec Yamandou Costa, Anna Vidovitch et moi. Et il y aura le concerto de Sergio Assad et Yamandou Costa qui s'appelle Ilias Concertantes. Concerto de Castelnuovo Tedesco joué par Anna Vidovitch. Et moi, je jouerai le concerto de Aranjuez qu'on connaît si bien.
3 concertos dans la même soirée, c'est vraiment la première fois que ça se passe.
On sera accompagné par l'orchestre de l'Opéra de Rouen. Et à la direction, ce sera Sora Elisabeth Lee. Je dois dire que tous les musiciens sont vraiment super, ils sont investis, ils sont heureux de faire ce projet-là. Et moi, je suis très heureux, parce que alors, je vais les diriger aussi. Je serai chef d'orchestre lors de cet événement.
Une première également ?
Une deuxième, mais là on travaille vraiment beaucoup. Et ça va être...
Donc vous êtes sur le pont, là, c'est en train d'être... Les répétitions ont commencé, j'imagine, depuis quelques temps.
Ça bosse dur.
Au-delà de ce grand événement qui est ponctuel, à l'année, vous avez des activités pédagogiques également ?
Oui, je suis en fait parrain de la classe de guitare de l'ISDAT à Toulouse, qui est le pôle supérieur de Toulouse. Et en fait, ça fait quelques années déjà. Et l'idée, c'était, sachant que je ne peux pas être là chaque semaine, ce n'est pas possible avec les tournées, c'était de quand même pouvoir avoir un lien avec les étudiants à Toulouse, qui est une ville qui m'est chère. Et de pouvoir être là 4-5 fois dans l'année comme des masterclass. Les étudiants ont quand même leurs professeurs, Benoît Albert et Rémi Joussel, de manière hebdomadaire. L'idée pour moi dans la transmission aujourd'hui, c'est de se dire, transmettre, c'est pas que donner des cours.
Et pour revenir un petit peu sur vos projets plus personnels, j'ai vu passer sur les réseaux sociaux une séance d'enregistrement. Vous étiez venu il y a quelques mois nous jouer, nous présenter votre projet Goldberg. Est-ce qu'on peut dévoiler quelque chose là ou...
Oui, ben alors voilà, on peut dévoiler. Ben, vous avez tout dévoilé, Sébastien, ça y est.
Ouais, mais c'est trop tard.
Je suis pris. Non, en fait, on vient d'enregistrer en effet avec Antoine Morinière les variations Goldberg à deux guitares que vous connaissez bien,
ouais,
évidemment. Et c'est vrai que ça a été une expérience de 4 ans de travail.
Oui.
Parce que l'arrangement, parce que faire des guitares sur mesure pour ce projet, le temps de travailler, de le faire mûrir, et c'était l'occasion de l'enregistrer là cette année. Donc un enregistrement dont on pourra parler plus précisément plus tard, mais qui aura une sortie à l'automne.
Thank you.
suis aussi un passionné de la culture guitaristique. C'est aussi pour ça que tout à l'heure on parlait de la Guitar Mania, et c'est pour ça qu'elle existe aussi. Et il y a un événement dont je voulais parler sur cette Guitar Mania, c'est le 6 avril, parce qu'il y a un événement le 2 avril, le 5 avril, et le 6 avril, on va investir le musée de la musique à Paris. Moi, je suis un fou de guitare ancienne, en fait, aussi. Et le musée de la musique a des guitares sublimes.
Très, très belles.
Donc, j'ai voulu organiser une conférence concert sur les instruments du musée qui sera tenue par Eric Pierre Hoffmann. Et en fait, il va nous expliquer l'apparition de la sixième corde à la guitare et comment ça a changé l'histoire de l'instrument. Mmh. Et ça, cette conférence, ce sera le 6 avril à 11h. C'est hyper important, cette question, parce que souvent, on nous dit ça vient d'où la guitare ? Quelle est l'origine ? C'est compliqué de l'expliquer de manière très très précise, parce qu'il y a beaucoup d'origines, mais il y a quelque chose qu'on peut expliquer, c'est que la guitare passe de 5 cordes à 6 cordes, et c'est là qu'apparaît réellement l'instrument que nous on joue aujourd'hui.
Une petite dernière question aussi plus personnelle, est-ce que vous avez beaucoup de programmes, vous jouez beaucoup de programmes, vous avez aussi beaucoup de programmes à venir, donc il y a une somme de travail, de choses à entretenir, de choses à prévoir. Est-ce que dans votre emploi du temps, dans votre routine guitaristique, il y a la place encore d'essayer des choses, de découvrir, de dire « Ah bah tiens, je vais travailler ça, je vais essayer, voir ce que ça donne dans mes doigts. » Est-ce qu'il y a encore ça ?
Moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup déchiffrer, donc j'aime beaucoup découvrir. Et en fait, pas tous les jours, mais presque, je déchiffre des trucs que je ne connais pas. Donc c'est quand même, en parlant d'espace de découverte, je pense qu'il est important de toujours avoir un espace de découverte et pas de s'enfermer dans un programme pendant 6 mois et de se dire je fais que ça et je m'autorise pas à jouer autre chose. Ça me permet de découvrir beaucoup de répertoires, ça me challenge parce qu'il y a des pièces que je découvre que j'ai envie de jouer à la place d'autres dans des concerts, mais je peux pas forcément parce que j'ai annoncé des pièces.
Parce que les programmes sont prêts.
Exactement, mais je pense qu'il est toujours important d'avoir cet espace de découverte et en fait je me rends compte que quand on se laisse cet espace mental en fait, eh bien, on a toujours des idées. C'est-à-dire qu'on est en constante ébullition et je sais que moi, je m'emmerderais un petit peu si je ne me laissais pas la place pour ça.
Moi, je trouve que c'est super de terminer là-dessus. Merci beaucoup, Thibaut Garcia, d'être venu nous rendre visite ce matin, ce midi.
Merci à vous.
Guitare de légende, Sébastien Linares.
Aujourd'hui, une valse de l'opus 8 d'Augustine Barrios Mangoré. Guitaristique du musicien paraguayen Augustin Barrios Mangoré est parfois comparée à celle de Frédéric Chopin pour le piano. Et c'est vrai que l'inventivité du langage, le naturel et l'idiomatisme, la liberté avec laquelle le compositeur crée pour son instrument peuvent rapprocher les démarches respectives de ces deux artistes. Pour John Williams, que l'on entend ici jouer la valse numéro 3, le parallèle serait plutôt à chercher du côté de Django Reinhardt. Et c'est vrai que l'on dirait que Barrios développe quasiment en improvisant. L'inspiration semble venir de l'instant, et c'est ce qui rend sa musique si attrayante pour les interprètes et si vivante pour les auditeurs. Chez Barrios, l'expressivité sud-américaine se conjugue avec les influences classiques européennes et celles traditionnelles et indigènes. Les valses de l'opus 8 englobent toutes ces saveurs avec, en plus, un petit côté salon, un charme fragile à manier avec précaution comme une fleur séchée. Si on s'en empare de façon trop brutale, la musique s'émiette et paraît surannée. Mais si on sait l'agencer, alors elle dégage une ambiance chic et délicate. Thank you. Les valses 3 et 4 sont les plus connues et les plus jouées de cet opus 8, et c'est peut-être dû au fait qu'elles sont parfaitement complémentaires. La 3 est plutôt lente, nostalgique, ré mineur, la 4 est brillante, énergique et sol majeur. L'introduction semble jaillir seule des doigts du guitariste. Elle se répète un peu plus grave. Puis la rythmique se met en route. Ici, tout semble possible et le thème va se trouver peu à peu. Une fois, deux fois, à la troisième, ça y est. Puis la pièce va se développer de façon organique, avec plusieurs parties bien distinctes. Un passage plus syncopé. Et un trio plus lent où la mélodie passe dans les graves de l'instrument. Avant de se transformer en un arpège qui va en s'accélérant. Prises distinctement, ces parties pourraient donner une impression un peu décousue, mais elles sont en fait liées entre elles par la puissance de l'inspiration de Barrios, l'originalité et l'aspect organique de la construction de son écriture. Thank you. Guitare Guitare, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine, toujours autour du Paraguay, puisque nous recevrons la grande guitariste Berta Rojas. À la réalisation aujourd'hui, Patrick Lérissé, Jean-Louis Deloncle à la technique, ainsi qu'à la prise de son et l'aide d'Annie Comier. Très bon week-end à vous tous. N'oubliez pas de visiter le site et l'appli Radio France pour vous abonner à nos podcasts, regarder nos vidéos, consulter les programmes en détail et nous écrire, bien sûr. France Musique.